La séance des tirs au sort va bientôt débuter ici, au kiosque à pizza. Il dépose la boîte devant lui. Il recule de 3 pas. Il sort son téléphone. Il se rapproche du QR code. Il s'élance. Et c'est scanné. C'est scanné. Mais qu'est-ce qui vient de se passer? Il gagne une voiture électrique!
Jusqu'au 14 juillet, rendez-vous dans votre kiosque à pizza pour tenter de gagner des pizzas, des consoles de jeux et même une voiture électrique! Voir conditions et règlements du jeu sur lekiosqueapizza.com. Pour votre santé, bougez plus.
Vous écoutez
RMC.
RMC.
Viry-Châtillon, Sucy-en-Brie. Coup d'envoi 2h. On gagne 6-0, je mets les 6 buts.
J'ai un scoop pour vous. Penalty sur Rony Lopez.
J'ai demandé pourquoi on n'est pas revenu sur la VAR. Mais la VAR ne fonctionnait pas. Et elle s'est remis à fonctionner juste après. Bizarre.
Dernier mot, Fabregas. J'ai aucune info. Vous devez savoir.
Ah, je l'ai eu tout à l'heure, il allait bien. Il était chez lui. Donc voilà.
Mais le temps, c'est un truc qu'on n'a pas. Même le temps n'a pas le temps pour le temps. Le temps ne s'arrête pas. Là, j'arrête ma montre. Mais le temps, il continue. J'ai arrêté le temps de ma montre. Mais pas le temps. Le temps n'a pas de temps. Mais il faut du temps.
20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamin.
Salut à toutes et à tous, c'est Génération After, comme tous les soirs sur RMC de 20h à 22h. Bonjour à toi qui nous écoute en podcast avec ce soir Kevin Diaz. Salut Kevin.
Salut à tous.
Elton Mokolo est encore là ce soir, le back-to-back pour Elton. Bonsoir Elton.
Salut Nico, salut à tous.
Et Sofiane Zouaoui est aussi présent ce soir. Salut Sofiane.
Salut Nico, salut à toutes et à tous.
Prêt pour l'Euro Sofiane?
Je suis
dedans ou pas? T'as fait
tes
fiches?
Franchement, je suis de plus en plus chaud. Puisque j'ai étudié chaque équipe et quand t'étudies, tu rentres dans le.
Qu'est-ce qui t'a excité un peu là, avant cet Euro là? Qu'est-ce que t'as envie de voir spontanément là?
Moi, j'ai envie de voir déjà la France, bien évidemment, et j'imagine un crash de l'Allemagne et j'imagine. et j'imagine une sortie prématurée de l'Angleterre et ça fait mon bonheur.
Ça fait ton Euro.
Voilà.
Tout à l'heure, Polo sera avec nous en fin de Génération After 21h30 pour évoquer la National Mannschaft. Peut-être qu'il t'a écouté, je suis pas sûr, mais en tout cas, on pourra ressortir l'extrait. Polo nous dira si la National Mannschaft est capable d'assumer son statut de favori. On parlera dans quelques secondes de Roberto De Zerbi, c'est la grosse info du jour. Il a dit oui à Marseille parce qu'elle peut surprendre cette info, bien sûr. On va donner les dernières infos et bien vous expliquer qui il est, que peut-il apporter à Marseille. Est-ce que c'est encore mieux que Sergio Contessao? Johan Crochet, qui le connaît très très bien, sera avec nous dans Génération After. 20h45, avis de Sofiane. Thierry Henry perd son temps dans sa carrière d'entraîneur, actuellement à la tête de l'équipe olympique, de l'équipe de France olympique. Les Bleus, 21h, sont-ils à l'abri d'un crash lors de cet Euro? On ira en Allemagne. Entraînement, effusion, effervescence, beaucoup de monde. Les Bleus sont-ils vos favoris également? Quelles sont les zones d'incertitude? Voilà aussi, on va en débattre avec vous au 32-16. Et puis, le quiz de l'After, 21h45. Bien sûr, une tradition le jeudi soir dans Génération After. Vous pouvez participer, vous envoyez quiz au 7-32-16, quiz au 7-32-16. Et celui qui aura choisi la meilleure équipe possible, hein, ce soir, soit l'équipe Elton Mokolo, Gilbert Brébois, soit Kevin Diaz, Sofiane Zouaoui, eh bien, remportera un bomber shot. Alors, Gilbert, à 22h, prend le relais. Bonsoir, Gilbert.
Salut, les gars. Elton, le bomber, il est pour nous.
Ok, vas-y. Salut, Gilbert. On y va, Gilbert.
À 22h, on va nous aussi débattre de l'arrivée de De Zerbi à Marseille. Julien Laurence sera là pour nous raconter tout ce qu'il a fait à Brighton. C'est intéressant, évidemment. Tout à l'heure, on débattra avec Walid Acharchour, qui sera avec nous, qui monte en équipe 1 ce soir, et Daniel Riolo. Et puis, comme on est à la veille de l'Euro, les drôles de l'âme seront là. Dernières infos, favoris, tout ce qu'il faut savoir à la veille du match d'ouverture, ce sera à partir de 23h. Et puis, un invité ce soir, une légende du foot français. Et oui, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé de l'Euro 84 dans l'after depuis quelques jours là. Alors nous, Daniel et moi, on connaît par cœur l'Euro 84. La petite louche de Giresse à Nantes contre la Belgique.
Le doublé de Jordao.
Le triplé de Platini à Saint-Etienne. Bref, et tout le reste. Maxime Bossis sera avec nous.
Oui,
ça c'est propre.
Ah oui, quand même.
Exactement. Une sorte de Laurent Blanc de l'époque.
Oui, c'est ça.
Mmh. Ouais. Là, donc on va se remémorer ces grands moments-là. À la veille de l'Euro, donc c'est un after quasiment 100% Euro et avec du Marseille à partir de 22h.
Ce sera avec Walid et Daniel. À tout à l'heure, Gilbert, pour l'after comme tous les soirs jusqu'à minuit, vous le savez, comme tous les jours et tous les soirs sur RMC. Le 32-16 est ouvert, vous nous appelez pour débattre, hein, De Zerbi, Thierry Henry, l'équipe de France, l'Allemagne notamment, et également on est en direct, vous le savez aussi, sur la chaîne YouTube de l'after, @after-foot, pour nous voir, pour commenter dans le chat et vous abonner également. C'est parti donc pour Génération After. C'est la grosse info du jour, voire de la semaine. C'est une surprise aussi. On parle depuis à peu près 2 semaines de l'arrivée probable de Sergio Contessao. Et bien aujourd'hui, à mi-journée, on apprend que ce sera sûrement plutôt Roberto De Zerbi, même si on savait que le Portugais continuait à hésiter. Il a fini par agacer le duo Longoria-Benatia, qui a senti qu'il n'était pas assez motivé pour rejoindre l'Olympique de Marseille, en tout cas pour lui faire confiance. De Zerbi, lui, s'est montré très vite intéressé. Il avait déjà été approché, je donne les infos d'abord, hein, en 2022, après le départ de Sampaoli, et avant l'arrivée de Igor Tudor, on avait hésité à Marseille. Lui n'a pas oublié Marseille. On va en parler dans un instant avec Johan Crochet. Kevin, quand je t'appelais tout à l'heure dans l'après-midi pour te dire, préparer l'émission, je t'ai annoncé la nouvelle. De Zerbi, pas très loin de l'OM, hein. Faut encore se mettre d'accord avec Brighton pour environ 6 millions d'euros d'indemnité. Tu m'as quasiment pas cru.
Non, c'est pas que t'es pas cru.
Ah si, tu m'as fait quoi?
C'est vrai que c'est quand même une opportunité en tout cas exceptionnelle. Déjà que De Zerbi, qui était quand même sur les tablettes du Bayern, du Barça, de Liverpool, puisse ne serait-ce qu'être intéressé et apparemment avoir un accord de principe, même si les deux clubs doivent encore discuter. Ça montre quand même la force de l'Olympique de Marseille. C'est vrai que quand t'es entraîneur et tu viens entraîner au Vélodrome, notamment cette saison en Europa League, tu dois quand même te dire qu'il y a un potentiel extraordinaire dans ce club. Tu vois quand même un entraîneur comme Igor Tudor ou même comme Gattuso, peut-être qu'ils ont des connexions, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, on le sait ici en France, Marseille c'est un club particulier, c'est une ville particulière, c'est une vraie ville de foot. Et je suis pas sûr que Brighton soit autant derrière son équipe. En tout cas, ça reste quand même un entraîneur qui a très très bien performé avec Brighton, mais également en Italie. Et aujourd'hui, après, je pense que De Zerbi, c'est quand même un fan et un adepte de Marcelo Bielsa. Donc quand tu vois quand même les noms qui sont passés à l'OM, et quand t'es entraîneur italien, tu peux quand même te dire que, surtout en passant un petit coup de fil peut-être à Bielsa, encore une fois, je fabule, je ne sais pas, mais qu'il y a quand même un potentiel énorme dans cette ville et dans ce club, même si je reste très surpris. Et ce serait pour le coup un très très beau coup de la part de la direction marseillaise si ça se fait. Mais bon, dans le foot, on n'est jamais sûr de rien.
Plus que Contessao, tiens, Sofiane. Est-ce que c'est encore mieux Contessao comme idée?
La comparaison, moi je ne sais pas si elle m'intéresse, Nico.
La comparaison, elle est sur l'expérience, sur le vécu, sur le caractère sur la compatibilité avec.
Non, c'est pas que ça m'intéresse pas, c'est qu'en fait, moi je suis plus excité par De Zerbi.
Voilà, ça m'intéresse comme réponse.
Après, Contessao, il faut respecter parce que c'est deux quarts de finale avec Porto, c'est quatre titres de champion avec Porto. C'est un coach qui, je trouve, était rentré dans une case médiatique. On disait, ouais, c'est juste un coach qui est là, qui a la poigne, mais c'est pas que ça. Tactiquement, c'est très solide aussi. On a vu le match contre Arsenal en Ligue des Champions où Arsenal passe, mais sincèrement, sur l'aller-retour, il y a beaucoup de choses à redire. Donc attention, Contessao, s'il était venu à Marseille aussi, ou s'il vient à Marseille, je trouverais ça vraiment positif et excitant aussi. Maintenant, De Zerbi, moi, là, on rentre dans une case totalement différente. Là, sincèrement, les gens, je sais pas si les gens ont conscience de qui est De Zerbi, parce que c'est vrai qu'il n'a pas marqué le monde du football en termes de palmarès. En même temps, le mec fait Sassuolo et Brighton notamment. Donc, c'est sûr, pour aller chercher des titres, ça peut être très compliqué. Mais par contre, je rappelle juste, il y a un coach qui s'appelle Guardiola qui a dit que De Zerbi, était le coach avec le plus d'impact sur le foot actuel depuis 20 ans. Donc, quand il y a Guardiola qui parle, normalement, tu l'écoutes. Donc, dans la situation de l'Olympique de Marseille, qui est un club sans Coupe d'Europe, qui est un club qui sort d'une saison quand même avec beaucoup de off qui aurait pu faire mal au club, ce qui s'est passé avec Marcelino, etc. Tu te retrouves avec De Zerbi. De Zerbi qui a fini sixième l'année, sa première année à Brighton, derrière les monstres de Première Ligue, qui est un coach l'année dernière où ça a un petit peu moins bien marché, mais Brighton qui jouait aussi la Coupe d'Europe en même temps.
11e de Première Ligue et 6e la saison d'avant.
Et ils ont perdu
des gros joueurs.
Caicedo, ils ont perdu McAllister.
Non, mais c'est Sassuolo aussi. C'est ce qu'il a construit à Sassuolo.
Sassuolo, bien évidemment, avec une identité de jeu très marquée.
Les joueurs qui ont progressé.
Sur les sorties de balles, sur la possession. C'est une référence dans le foot actuel. Et voir ce coach arriver à l'Olympique de Marseille, si ça se confirme, bien évidemment, c'est exceptionnel. Vraiment, c'est exceptionnel.
Vous nous appelez 32-16, supporter à Marseille, pour nous dire si c'est inespéré, si ça vous plaît vraiment, Roberto De Zerbi. Il y a beaucoup de messages, effectivement. On nous dit, mais c'est quoi le palmarès de Zerbi? Effectivement, il n'a pas eu l'occasion dans les clubs où il est passé d'avoir une vraie ambition de titre. En Angleterre, compliqué, vous le savez, avec Brighton. Sassuolo en Italie. Mais il y a Shakhtar aussi, quand même.
Il y a des coachs qui ont marqué avec des titres qui ont beaucoup moins marqué le football que ce que lui a fait sur les dernières années.
Beaucoup de disciples. Elton, ton avis sur De Zerbi?
Bah, moi, déjà, quand j'ai appris la nouvelle, j'ai été très surpris parce qu'on annonçait beaucoup d'optimisme et même, de la prudence par rapport au fait que Conte Sau allait arriver du côté de l'Olympique de Marseille. Et du jour au lendemain, on a De Zerbi qui est proche de l'Olympique de Marseille. Alors, De Zerbi qui arrive du côté de l'Olympique de Marseille, sincèrement, moi, c'est une nouvelle auquel je m'y attendais pas. Mais c'est une très bonne nouvelle parce que déjà, c'est un entraîneur de qualité, c'est un rayonnement international parce que il y a qu'à voir les réactions du côté de la presse étrangère parce que quand on annonçait De Zerbi en Italie, en Liga, et même en première ligue dans des clubs très importants et qui termine à l'Olympique de Marseille, on est quand même surpris. Déjà, ce rayonnement international est très important. Ensuite, par rapport à entraîneur, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a une dissonance entre le fait que De Zerbi est un entraîneur effectivement qui marque par ses idées, mais qui n'a pas encore gagné. Pour moi, c'est un entraîneur teaser. C'est un entraîneur teaser parce que on est possiblement avec le futur patron des coachs dans les 5 prochaines années.
Super teasing quand même.
Oui.
Non, mais moi, je veux bien voir le film.
Non mais moi je pense comme ça parce que quand on parle de Zerbi, on pense qu'à un moment donné, ses idées vont se concrétiser au très haut niveau. Et voir l'Olympique de Marseille, avoir ce type d'entraîneur et donc avoir possiblement un entraîneur qui va marquer le football européen
d'ici
ces 5 premières années, moi ça m'intéresse énormément.
Ça tombe du ciel.
Nico, tu sais, on a eu des débats, notamment sur les dernières semaines et pendant toute la saison, sur deux aspects à l'Olympique de Marseille. Il y a quelques jours, on a parlé de McCourt et des potentielles critiques qu'on pouvait émettre sur McCourt. Il y avait David qui était là, Glusman, dans l'émission et qui avait fait un avis que j'avais trouvé très cohérent par rapport à ça. Parce qu'il y avait des critiques sur McCourt que moi je ne comprends pas parce que le mec aligne quand même beaucoup d'argent depuis qu'il est là. Et si De Zerbi arrive à l'Olympique de Marseille, c'est parce qu'il y a quand même aussi une attractivité économique. Ça, c'est la première chose. La deuxième aussi, le deuxième sujet, c'était sur le fameux contexte marseillais. Moi, ce qui me saoule, très régulièrement quand on parle de l'OM, c'est quand on parle du contexte marseillais de manière négative. Évidemment que ça peut avoir un impact négatif sur certains joueurs ou sur certains coachs, mais le contexte marseillais permet d'avoir ces coachs-là aussi. Hein. De Zerbi, il vient à l'Olympique de Marseille
parce que
pour l'attractivité économique et aussi parce que c'est Marseille. Donc tu vois, ces deux aspects qui sont présentés très souvent de manière négative quand on parle de l'Olympique de Marseille, on voit bien que s'il arrive à l'Olympique de Marseille, De Zerbi, il faut les tourner beaucoup plus, je pense, d'un point de vue positif.
Et puis de toute façon, comme on disait tout à l'heure, quand on a cité les entraîneurs qui sont dans la même gamme ou dans le même style que De Zerbi et d'ailleurs qui sont passés par Marseille, c'est-à-dire des entraîneurs qui se veulent protagonistes, en tout cas dans le jeu qui est proposé, mais aussi avec des caractères bien trempés, un peu à la sud-américaine ou à la latin, quoi. Et bah, quand tu vois un Bielsa, quand tu vois un De Zerbi ou même un Igor Tudor dans un style un peu plus, disons, un peu plus rigoureux, mais quoi qu'il arrive, c'est des entraîneurs qui viennent à l'OM, et tu disais qu'il va exploser au football européen, mais j'ai envie de te dire presque, peu importe s'il n'explose pas, en tout cas en termes de titres à l'OM, peu importe s'il remporte qu'une Coupe de France, ou qu'il remporte pas la Ligue 1, parce qu'à Marseille, ça fait partie des clubs où il n'y a pas que le résultat, il n'y a pas que l'arrivée, il n'y a pas que la ligne d'arrivée, il y a aussi le chemin qui compte.
Et puis si demande à la Juve, demande à Liverpool et à Manchester City s'il n'a pas explosé déjà, finalement.
C'est clair. Et c'est intéressant ce que tu dis par rapport à la dimension tactique, parce que moi je pense que depuis 10 ans, l'Olympique de Marseille est le club qui a le plus suscité d'éveil tactique chez les
coachs.
C'est-à-dire qu'on a eu Bielsa, on a eu Villas-Boas, on a eu Tudor, on a eu Sampaoli, et là on va avoir De Zerbi devant le PSG, parce que c'est-à-dire que c'est un club qui doit réfléchir différemment, c'est un club qui doit impacter différemment, et là sur les 10 dernières années le casting est quand même très intéressant.
Mais c'est le contexte marseillais aussi, hein. Bielsa, c'était Vincent Labrune qui a vu l'idée, vous rappelez à l'époque, hein. Bien sûr, c'est dirigeant succède,
ça pour le coup ça peut être,
mais Marseille est toujours toujours une force pour attirer des coachs, que
ça peut être une satisfaction.
Après il y a des points négatifs, on pourra les détailler après,
mais
le truc c'est même pas d'être forcément dithyrambique, c'est que forcément, comme tu l'as dit,
c'est super excitant.
C'est top. Et puis il y a autre chose, c'est que aujourd'hui on sous-estime le fait, je sais pas si vous vous rendez compte, c'est que à chaque match à domicile, il y a 60 000 personnes.
Oui, c'est le contexte marseillais.
60 000 personnes, c'est incroyable.
Moi, je me rappelle plus le journaliste de la Talenta Bergame qui était venu au Vélodrome cette saison et qui a dit, mais c'est incroyable. Parce qu'on n'a jamais vu ça. On voyage pourtant en Europe toute l'année, depuis des années.
Ouais,
on n'a jamais vu une telle ambiance. Allez, dans un instant, tiens, on aura Mickaël au 32-16 et Johan Crochet qui va nous parler de sa personnalité. Roberto De Zerbi, hein, tout proche de Marseille. C'est l'info du jour, bien sûr. L'info de la semaine, de l'année pour les supporters marseillais. On vous attend également au 32-16. À tout de suite sur RMC.
Tu cherches la meilleure appli pour parier sur tes matchs préférés ? Télécharge Unibet. Unibet, c'est la possibilité de recevoir tes gains en une minute sur ton compte bancaire grâce au virement instantané. En ce moment, profite d'un bonus exceptionnel de 100 euros pour toute nouvelle inscription. Unibet, par les joueurs, pour les joueurs. Bonus versé en crédit de jeu non retirable en cas de premier pari perdant. Voir conditions sur le site.
Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
RMC jusqu'à 22h. Génération After.
Nicolas Jamain.
Avec Kevin Diaz, avec Elton Mokolo et Sofiane Zouaoui, on est ensemble jusqu'à 22h. On a attaqué Génération After par l'info du jour. Roberto De Zerbi, tout proche de Marseille, l'OM le veut. Lui a dit oui. Il faut se mettre d'accord avec Brighton. Indemnité de départ autour de 6 millions d'euros. C'est donc une question d'heures, voire de jours pour l'officialisation. Ce ne sera pas donc a priori. On reste toujours prudent avec l'OM. Sergio Conceição. Tiens, j'accueille Mickaël au 32-16. Salut Mickaël.
Et bonjour l'équipe.
Salut Mickaël.
Bienvenue dans Génération After et sur RMC. Mickaël, alors comment tu as vécu, comment tu as pris cette information et comment tu la prends surtout?
Ben, je la prends avec pas mal de surprises et beaucoup d'interrogations. Le problème, ce n'est pas l'entraîneur qu'on va mettre sur le banc. Le problème, c'est l'équipe que l'entraîneur va diriger. J'entendais tout à l'heure les points positifs. On a fait venir Bielsa, on a fait venir Sampaoli, on a fait venir Tudor, on a fait même venir à l'époque Villas-Boas. Des très bons tacticiens. Mais ce qu'il faut surtout dire, c'est qu'on ne les a jamais gardés. Et qu'on a un président qui joue à Football Manager tous les ans, qui change tous les effectifs, qui change tout. Donc ça veut dire qu'on repart encore apparemment sur un nouveau cycle, on repart encore sur autre chose, et sans sous. Aujourd'hui, c'est pas un entraîneur qu'il faut, c'est un magicien. Pour faire jouer Ismaël Assar, Mbumania, des Gigot, des Ulysse Garcia, des Murillo, et bon, je peux faire une liste longue comme le bras. Le souci, c'est très bien. Alors, si De Zerbi vient, il vient avec quel projet, avec quelles ambitions, qu'est-ce qu'on lui donne entre les mains. On n'est pas capable d'acheter des joueurs, mais on est capable par contre de donner 6 millions à Brighton pour un entraîneur libre, parce qu'il est libre, mais on va quand même aller mettre 6 millions donc sur un entraîneur. Voilà, c'est De Zerbi, c'est clinquant, mais encore une fois, ça a zéro palmarès, ça a rien du tout.
Mickaël, t'as déjà regardé les matchs de Zerbi ou pas? C'est pas que clinquant, il y a un vrai fond, une vraie réflexion vraiment, de jeu. Vas-y, Sofiane.
Non, mais vraiment, avec tout le respect que j'ai pour toi, mon ami, si vous n'avez pas vu les matchs, il faut pas en parler, parce que De Zerbi, c'est pas juste clinquant, c'est pas juste un nom, c'est un travail vraiment. Je te dis, c'est un travail en profondeur qu'il a amorcé à Sassuolo. Moi, je regardais les matchs déjà à l'époque, on en parlait parce que je le souhaitais à l'Olympique Lyonnais. Tu vois, à cette époque-là, entre l'utilisation
et l'autre Olympique,
de Boga. Non, mais je suis très content pour la Ligue 1, de Boga, de Berardi, l'utilisation des côtés, la sortie de balle à Sassuolo, la façon dont il a fait exploser Muldur, le latéral droit. Tu vois, l'utilisation du milieu de terrain, la supériorité dans chaque zone à Brighton, comment il a utilisé Caicedo, comment Pascal Gross est devenu un milieu de terrain qui marque.
Mais il y a pas de souci.
Tu vois, c'est pas juste clinquant. Tu peux pas le réduire à clinquant.
La première ligue, je l'ai suivi. Brighton, on a eu l'occasion de les voir jouer. Si tu as vu un très grand Brighton avec une super tactique de jeu, parce que moi je l'ai pas vu.
Ah bah,
si vous l'avez vu l'année dernière, je suis d'accord. Donc une saison. Cette année, c'est 11e avec 48 points, quasiment 20 points.
Attends,
de
laisse-le finir. Vas-y, Mickaël. Et Kevin prend la parole.
Au Shakhtar Donetsk, il avait la meilleure équipe d'Ukraine. Et ben, je suis désolé. Ça a quand même pas matché. Sassuolo, en effet, il y a eu du jeu. C'est joli. Mais qu'est-ce qu'on veut à Marseille aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on veut? On veut être beau et faire du beau jeu. Il n'y a pas de souci.
Aujourd'hui, je vais te répondre, Mickaël, sur qu'est-ce qu'on veut à Marseille. Aujourd'hui, à Marseille, il faut redevenir attractif. Il faut redevenir attractif pour les joueurs d'abord. Il faut redevenir attractif pour le public et les médias. Et aujourd'hui, si tu prends des Zerbi, tu vas déjà cocher les deux premières cases sur. C'est-à-dire que les joueurs, ils vont avoir envie de venir à Marseille avec des Zerbi. C'est beaucoup plus facile de convaincre un joueur de faire un effort financier si tu viens et tu lui dis voilà, avec des Zerbi notamment, quand même à Marseille, tu proposes quand même attention à des salaires très corrects pour le niveau européen, et puis surtout tu vas progresser. Tu vas progresser, tu regardes, le mec il a fait progresser McAllister, il a fait progresser Caicedo.
Tu vois des relances, on pouvait se poser la question de Lewis Dunk, comme il a progressé à Brighton, Cole Will, enfin
et puis surtout c'est ce que je dis.
Il y a des questions à se poser sur l'effectif, pas de problème, mais je pense qu'il peut les transcender.
Et encore une fois, pour les supporters de Marseille, c'est une excellente nouvelle. Parce que si tu crois que si De Zerbi vient à Marseille, il peut te faire une Bielsa, hein. C'est-à-dire qu'il peut partir, à tout moment s'il voit que ce qu'on lui a promis de la direction, c'est pas le cas. C'est un gars qui est là, il veut gagner. D'accord? Il veut gagner, il veut bien jouer, mais c'est un mec qui veut gagner. Alors à Marseille, est-ce que tu vas gagner la Ligue 1 devant le PSG qui a 4 fois plus de budget? C'est toujours un peu compliqué. Mais déjà, gagner, ça veut dire gagner des matchs et finir top 4 pour aller en Ligue des Champions. Ça veut dire peut-être gagner une Coupe de France. Mais le gars, il vient pas juste pour faire bien jouer ses équipes, parce que en général, quand même dans le foot, hein, je t'apprends rien, quand tu joues bien, t'as plus de chances de gagner.
Et puis surtout, il y a quelque chose pour moi, Mickaël, qui est très important. T'as évoqué un point qui est très important, et là-dessous sera attendu Longoria, cette capacité à fidéliser un entraîneur sur la durée. Je pense que De Zerbi est un entraîneur indiqué pour faire ça. Deuxième élément que t'as évoqué, c'est pourquoi ça a payé pour un entraîneur. Moi, je pense qu'aujourd'hui, et j'ai un parti pris, vaut mieux investir dans le staff de l'Olympique de Marseille plutôt que dans les joueurs. Parce qu'aujourd'hui, parce que tu n'as pas la Ligue des Champions, tu ne peux pas investir sur un joueur qui va t'apporter un saut qualitatif. Donc, sois pragmatique, investis sur un entraîneur qui va t'apporter justement ce fameux saut qualitatif et qui va t'assurer deux choses. La santé sportive en te permettant de retrouver la Ligue des Champions, et la santé financière en te permettant, le cas échéant, d'avoir des joueurs qui peuvent être mieux revendus. Et pour moi, c'est quelque chose qui est très important. Et après, du côté de Zerbi, évidemment, il sera attendu là-dessus, parce que là, pour le coup, Mickaël, là où t'es pas juste, c'est que pour la première fois, De Zerbi va être confronté, va se retrouver dans une équipe qui va être une équipe locomotive d'un championnat. Chose qui n'était pas le cas du côté de Sassuolo, chose qui n'était pas le cas, bien évidemment, du côté de Brighton. Donc c'est dur de lui faire un procès là-dessus, sur ce manque de légitimité. Allez. Par rapport au trophée, parce qu'il n'a jamais été confronté à ce genre de situation. Je pourrais t'évoquer bien évidemment l'Ukraine, mais c'est d'autres considérations.
Je remercie Mickaël d'avoir fait le 32-16. On va accueillir un homme qui le connaît très très bien, qui nous en parle à peu près 500 fois, notamment le lundi soir avec les drôles de dames. Yoann Crochet est avec nous. Salut Yo.
Salut Nico, bonsoir à toutes et à tous.
Salut. Salut. Bienvenue dans Génération After, Yoann. Bon, t'as rencontré quelques reprises Roberto De Zerbi. T'as passé du temps, je crois, printemps ou été 2021 avec lui au téléphone. T'avais fait des articles pour le site rmcsport.fr. Juste toi, comment t'as réagi quand t'as appris que un homme dont tu loues les extrêmes compétences va certainement signer à Marseille?
Bon, petite surprise quand même. Évidemment, je crois que
petite seulement.
Ouais, je crois que c'est le cas de tout le monde, en Italie, en France, un peu partout. La joie déjà de le voir retrouver un banc, si c'est évidemment confirmé qu'il arrive à Marseille, parce que quand tu aimes le foot, t'as pas envie qu'un entraîneur comme ça s'arrête très très longtemps. Et ensuite, pas mal d'excitation de voir ce qu'il est capable de faire de cette équipe de l'Olympique de Marseille, parce que j'ai évidemment bien écouté ce que nous avait dit notre auditeur en nous expliquant que en Ukraine c'était un échec et que ça n'avait pas fonctionné, alors qu'il était premier du championnat au moment de l'arrêt, qu'il avait gagné la Supercoupe d'Italie. Que quand on parle aux joueurs, et peut-être que Mickaël avait parlé à beaucoup de joueurs du Shakhtar Donetsk.
Mais il est fou.
Non, mais je comprends ce qu'il veut dire.
Désolé, il est fou.
Le fond de ton intervention à Mickaël, c'est de dire c'est très bien De Zerbi, pourquoi pas.
De dire n'importe
mais
quoi.
Mais avec quelle équipe? Non, mais avec quelle équipe? Avec quel joueur également? Est-ce que De Zerbi aura des joueurs qui pourront mettre en musique
son... Nico Jamin
voulait un peu de contradiction.
Non, pas du tout, j'ai rien fait, j'ai pas la main.
Non, mais les joueurs, c'est évidemment un élément très important, mais j'ai pas l'impression que Webster, Dunks, Marsh, Tariq Lamptey, Jason Steele dans les buts, c'était des phénomènes. Enfin, il me semble pas, en tout cas. Il y en a qui ont découvert la sélection nationale grâce à la saison faite avec Roberto De Zerbi. Donc, peut-être.
Evan Ferguson devant.
Ouais. Et puis, est-ce qu'on avait déjà revu Danny Welbeck à ce niveau-là? Je suis pas certain. Mais après, chacun voit ce qu'il a envie de voir, hein. Moi, quand on me dit qu'on voit pas d'identité, quand on regarde le Brighton de Zerbi, alors soit la chaîne cryptée existe encore et qu'elle crypte les matchs et qu'on voit plus comme dans les années 90, soit on regarde pas les matchs, on va sur Flash Score et on voit les résultats et on voit cette saison 11e, c'est pas terrible, en oubliant que toute la saison, il a eu 10 joueurs blessés majeurs. À tour de rôle, parce qu'évidemment, dès qu'il y en a qui jouaient trop, ils se blessaient, puis ceux qui revenaient, mais ils se reblessaient juste derrière, tout en sachant que c'était la première fois qu'ils jouaient à la Coupe d'Europe, et qu'ils ont fait quand même un parcours plutôt honorable en Coupe d'Europe, en terminant premier de leur groupe, avec des peintres, hein, comme Marseille, l'Ajax et l'AEK.
Tu restes avec nous dans un instant, on fait une pause, hein. Tu vas nous parler de la personnalité également de Roberto De Zerbi. Roberto De Zerbi, je rappelle, hein, je l'ai pas dit, mais que United, Manchester United et Liverpool, l'avaient mis très très haut sur leur liste, hein, Yoann, mon cher Yoann, hein.
Évidemment.
Tu m'as parlé cet après-midi.
Tu vois, je vais te dire, il fait une année sabbatique.
Le Bayern Munich aussi, hein, c'était
intéressant. Imaginons, il fait une année sabbatique, il va pas à Marseille, hein, dans un autre monde. Il fait une année sabbatique, Guardiola finit à City. Hein? Je te promets, il prend la suite de City, je trouve ça normal. Je te le dis.
Dans un instant, on va accueillir Adam également, supporter marseillais au 32-16. Impatient d'avoir ton avis, Adam. Je vous rappelle également qu'on vous fait gagner un cadeau exceptionnel sur RMC. Vivre l'expérience RMC Euro 2024, le voyage à Leipzig, vol et hôtel, la rencontre avec les équipes d'RMC. Deux places pour France-Pays-Bas le 21 juin. Dès que vous entendez cette alerte, vous avez 5 minutes pour envoyer Euro au 732-16, Euro au 732-16, vos places pour France Pays-Bas. On revient dans un instant. Qui est l'homme Roberto De Zerbi? On en parle avec Sofiane, Kevin, Elton et Johan Crochet. A tout de suite sur RMC.
Oui Patrick, il est dans la surface des TV TCL chez Electrodépôt.
C'est clairement du TCL. 190,5 cm Google TV 4K Ultra HD à seulement 799€. Les prix bas chez Electrodépôt bien sûr.
Oh quelle qualité d'image. Oh, il rentre dans la zone avec son caddie.
Oui, il la met sur son caddie et c'est une passe décisive.
Passage en caisse, c'est une TV TCL à seulement 799€ chez Electrodépôt.
Vivez de grands moments chez Electrodépôt en magasin ou sur electrodepot.fr avec TCL.
RMC, 20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamain.
Avec Stéphane Douaoui, avec Elton Mokolo, avec Kevin Diaz, Génération After, RMC, 20h30. Roberto De Zerbi va donc certainement arriver à Marseille. On n'attend plus qu'une confirmation, je vous le disais, en début de Génération After. Accord trouvé entre le club et l'entraîneur italien. 45 ans, je le disais. Johan Crochet est aussi avec nous. Johan, joueur moyen, il le dit aisément. Petite carrière quand même, environ 280 matchs professionnels. Formé au Milan d'ailleurs, mon cher Johan. J'ai lu une interview qui disait les entraînements au Milan ont construit mon exigence. J'ai travaillé, étant jeune, au milieu des Maldini, Costa Curta, Baresi, Boban, Baggio. Ils m'ont fait comprendre ce qu'est le football professionnel, que le match est le miroir de l'entraînement. Tu joues en compétition comme tu t'entraînes. Ça, c'est une maxime qu'il a prolongée tout au long de sa carrière d'entraîneur, mon cher Johan.
Oui, bah évidemment, la semaine, c'est le travail très important pour ensuite pouvoir répliquer ce qui est travaillé.
C'est l'anti-Allegri, quoi.
En match, oui, par exemple, oui. Et c'est vrai que les séances d'entraînement sont longues, sont complexes, sont parfois un peu usantes mentalement, mais c'est parce que y a beaucoup de choses à mettre en place, que ça peut être aussi un peu complexe pour certains de vraiment tout intégrer dans la méthodologie de travail et dans ce que demande Roberto De Zerbi, mais ça fait partie de lui, de sa façon de voir le foot, et il le dit de toute façon que lui, il ne vit que pour le football, que partout où il va, il s'intéresse qu'au football, qu'il ne mange que football. Donc effectivement, il a une très forte exigence, et c'est vrai qu'en France, on n'a pas toujours cette habitude-là, mais quand on a des entraîneurs qui ont connu la Serie A, où il y a quand même une bonne grosse dose de professionnalisme, de vision du métier de footballeur, ça peut faire un peu un choc de culture, mais De Zerbi a un côté quand même... plus malléable dans les rapports humains, et il a vraiment envie de créer quelque chose avec ses joueurs, une expérience commune, une expérience collective, une vie de groupe réelle. C'est pas rare d'avoir des joueurs invités chez lui pour dîner le soir par exemple, par petits groupes, pour parler évidemment de football, hein, et pas d'autre chose.
Et Johan, comment t'expliques qu'il est pas, avec tout le respect que j'ai pour l'OM, un grand club européen?
Je sais pas parce que j'en ai pas parlé avec lui et donc je vais pas m'avancer sur quoi que ce soit.
Non mais tu vois par exemple le Milan qui cherchait un entraîneur.
Ouais mais le Milan n'a pas pris De Zerbi en considération.
Ok.
Et Johan, j'ai une question sur le volet tactique parce que on sait que du côté de la Ligue 1, t'as eu Sampaoli, t'as eu Villas-Boas, t'as eu Tudor, t'as eu Farioleri récemment. Bah d'ailleurs, tu l'as eu.
Disciple de De Zerbi.
Ouais,
hein.
Tu l'as eu en interview récemment. Ils ont mis en avant l'adaptation nécessaire par rapport à la Ligue 1 et notamment sur le volet transitionnel. C'est une chose qu'on va revoir avec De Zerbi.
Ouais, il le gère bien ça.
Alors contrairement à Farioli, par exemple, la force de Zerbi, c'est qu'il a connu ça aussi en Première Ligue. Parce que, autant au départ, il y avait un peu la découverte d'un système, d'une mise en place que beaucoup d'équipes ne connaissaient pas ou de joueurs ne connaissaient pas, autant dès les premières semaines, ensuite, on a tout de suite vu que les autres clubs anglais qui affrontaient Brighton avaient une attitude très très différente d'avant et qu'ils les attendaient beaucoup. Et pour ensuite, évidemment, lancer des flèches en contre-attaque. Et il y a aussi beaucoup de profils dominants sur les transitions en Première Ligue, comme il y en a d'ailleurs beaucoup en France. Et tu as raison, hein, Elton, ce qui surprend parfois les entraîneurs quand ils arrivent en France, les entraîneurs étrangers. Je pense qu'il est plus adapté à ça. Après, Après, il y a deux façons de voir les choses. Ou bien tu te concentres sur le nombre de buts encaissés qui peut paraître parfois un peu démesuré, ou bien tu te concentres sur sa capacité à créer des occasions et à les marquer et à atteindre des objectifs, parce que effectivement quand on regarde son palmarès, il y a pas forcément grand-chose dedans, mais comme le disait, je crois que c'était Sofiane tout à l'heure, bon, tu peux pas demander non plus à Brighton de gagner la Première Ligue et à Sassuolo de gagner la Serie A. D'ailleurs, entre parenthèses, hein, relire un peu ce que dit Gasperini sur la notion de trophée, quand il t'explique que lui, gagner 3-0 à Anfield, c'est un trophée pour lui, parce qu'à l'Atalanta, tu peux pas lui réclamer, bah, ils l'ont fait quand même cette saison, mais de gagner des Coupes d'Europe et de gagner la Serie A. Mais le travail qui est effectué, d'où tu pars, d'où tu prends une équipe et où tu l'amènes, ça c'est un trophée. Où tu prends les joueurs, où tu les amènes, c'est un autre trophée. La valorisation des joueurs pour le bien économique du club, c'est un autre trophée. Donc tout ça, De Zerbi l'a fait partout où il est passé, donc il n'y a pas de raison qu'il ne réussisse pas à le faire à l'OM.
J'accueille Adam au 32-16, supporter de l'OM. Salut Adam.
Salut, bonsoir à tous.
Bienvenue dans Génération After avec Sofiane, Johan, Elton et Kevin. Bon, est-ce que tu es excité à l'idée de voir arriver De Zerbi à Marseille?
Je vais être très honnête avec vous, j'ai encore un peu, j'ai du mal à y croire. C'est trop beau. Pour moi, ça me semble trop beau pour être vrai. Puis je vais encore prendre des pincettes puisqu'il y a, 15 jours, on faisait les mêmes débats mis sur compte CSAO. Au final, on se retrouve aujourd'hui avec une info qui sort de nulle part De Zerbi. Ce serait magnifique, hein. Franchement, c'est un coach extraordinaire.
Ça sort pas de nulle part non plus. Tu sais, on travaille, hein. Flo Germain, Fabrice Hawkins travaillent. Ah oui, ça tombe du ciel. Ça tombe du ciel. C'est ça.
On attendait juste l'officialisation contre CSAO. On se retrouve avec un De Zerbi. Franchement, j'ai du mal à y croire. Je trouve que c'est presque trop beau pour être vrai. Ou alors, c'est, mon point de vue, en fait, c'est que c'est aussi une prise de risque de la part de l'OM parce que, et là, je vous écoutais parler du côté un peu, théoricien du football de Zerbi que moi j'adore, mais ça m'évoque en fait l'arrivée de Bielsa il y a 10 ans, où on a vécu une saison émotionnellement et footballistiquement qui était magnifique, sauf que c'était une saison sur laquelle on n'avait pas le droit de se louper, il fallait absolument récupérer la Ligue des Champions, et on n'y est pas arrivé parce que Bielsa était un peu, bah vous le connaissez, hein, il était un peu buté sur ses principes, et on s'est fait justement, on a perdu plusieurs matchs en fin de saison cruciaux où on s'est fait prendre par des équipes made in Ligue 1, transition 1-0. Je me souviens d'une défaite contre Lorient à domicile où on en prend 4 alors qu'ils étaient en Ligue 2, que des buts en transition, enfin que des trucs comme ça. Et cette saison, je pense qu'elle m'a vacciné dans ma vie de supporter. Et je fais un parallèle avec ce qui arrive cette saison. Je me dis que là, on n'a pas le droit de se louper. Il y a un compte CSAO qui connaît la Ligue 1, qui est pragmatique, qui fait surperformer des joueurs parfois. Je ne vais pas dire moyen, mais moyen plus, ça aurait été un peu plus rassurant dans le contexte actuel de l'OM. Après, je ne vais pas cracher sur De Zerbi, parce qu'encore une fois, pour moi, c'est inespéré, je n'osais même pas y penser. Pour moi, c'est l'un des coachs qui, pour moi, révolutionne le football sur ces dernières années. Bon. C'est un grand théoricien. Oui. Et voilà, ce serait magnifique quand même, mais j'aurais quand même une grosse part de crainte, quoi.
Je peux t'entendre sur ça, parce que contre CSAO, c'est très bien aussi, comme je disais en introduction. Maintenant, il y a plusieurs choses par rapport à De Zerbi et aux craintes qu'on peut avoir, parce qu'il y en a bien évidemment, hein, c'est pas acquis, par rapport à l'intensité qu'il demande aux joueurs, par rapport au travail qui est demandé aussi à l'entraînement, et est-ce que ça va matcher avec tous les joueurs de l'Olympique de Marseille. Il y a eu des cas sur les dernières saisons où évidemment ça a marché, mais que au bout d'un certain temps, tu sentais quand même qu'il y avait des joueurs qui tiraient la langue, que ce soit mentalement ou physiquement. Donc bien sûr qu'il y a cette question. Maintenant, il y a deux choses, moi, qui peuvent me rassurer par rapport au risque. La première, je vais peut-être vous faire sauter sur le plafond.
Tomber de la chaise.
Ouais, tomber de la chaise. Pardon, sauter au plafond. Sauter au plafond. Excusez-moi.
C'est un jingle.
Je vais peut-être vous faire sauter.
Oui, là, c'est bon. Ouais.
Il
me tient en régie. Je me tiens en régie.
Il est attentif. Non, mais je mets dans la boîte. C'est dans la boîte. T'inquiète.
Sauter au plafond, pardon, ici en plateau. Mais l'OM est capable d'amortir des saisons sans Coupe d'Europe. On l'a vu cette saison. Ma courte est quand même. Évidemment, faut pas les répéter. Faut pas abuser non plus. Mais t'as quand même un mec financièrement qui est solide pour pallier ce manque-là. Et aussi, j'aime pas ce discours, mais cette saison, ça peut leur servir avec De Zerbi pour travailler leur méthode. Quand t'as un match par semaine, comme cette saison, je pense que c'est aussi la bonne saison pour tenter quelque chose comme ça. Avec un mec intransigeant tactiquement, bon, qui est capable de s'adapter aussi, mais je veux dire avec des principes forts qui se travaillent sur la semaine. Quand t'as un match par semaine, peut-être que ça peut t'aider aussi sur la fraîcheur mentale et la fraîcheur physique. Donc, tu vois, il disait, moi j'étais vacciné avec Bielsa. Évidemment que la saison se finit avec une déception. Mais sincèrement, c'était tellement un modèle et pour moi une base personnellement dans ma compréhension du football quand Bielsa est arrivé à l'Olympique de Marseille, qui t'apporte tellement autre chose que simplement le résultat final, que t'as besoin de ça aussi par moment. Et cette saison sans Coupe d'Europe, parce que ça va te manquer quand même dans le fait de vibrer, si tu la compenses par un mec comme ça, je crois que c'est la bonne solution.
Mais moi je suis certain que De Zerbi, c'est une très très bonne option pour l'OM, notamment parce que j'étais aussi, alors je vais pas dire persuadé, mais je pense que ça convient mieux à l'OM que Serge Conceição. Parce que Serge Conceição, c'est plus Villas-Boas, qui avait, je le rappelle, fait quand même une excellente saison en termes de résultats, mais où j'entendais les fameux discours ça joue pas, ou ah ouais, mais c'est pas spectaculaire. C'est clair que c'est plus Didier Deschamps que Bielsa. Conceição.
Il y a quand même plus, quand même. Tactiquement.
C'est le Portugal.
Bon, en faisant pas Conceição. Après, pour le coup, juste qu'on a créé Hakim.
Dans un club où tu étais largement au-dessus du championnat portugais, non.
Après Kevin, pour revenir sur, il y a quelque chose que Longoria avait avancé quand il est arrivé du côté de l'Olympique de Marseille, c'est la volonté de faire de l'Olympique de Marseille un club du top 20 et le stabiliser à ce stade-là. Et là, pour le coup, moi, je pense que dans cette logique-là, et j'insiste dans cette logique-là, l'arrivée de De Zerbi est une étape nécessaire pour arriver sur ce type d'objectif. Donc, avoir un entraîneur qui puisse prétendre à ça, avoir un entraîneur qui soit un entraîneur référencé, parce que pour moi, c'est une étape nécessaire pour le projet olympien, pour lui donner davantage de visibilité sur le moyen et sur le long terme.
Merci Adam d'être venu dans Génération After. T'as avec Hakim beaucoup d'appels au 32-16 pour parler de Zerbi. Salut Hakim.
Salut. Bonsoir tout le monde.
Salut. Bienvenue. Bon alors, comment tu vis ça, toi? Comment tu accueilles l'option de Zerbi à Marseille?
De la même manière que Adam, quand j'ai vu l'info tomber, j'ai dit mais ça sort d'où ça? C'est inespéré.
T'as cru qu'on était le 1er avril?
Pardon, j'ai pas entendu.
T'as cru qu'on était le 1er avril?
Ouais, voilà, c'est à peu près ça, parce que ça fait deux, trois semaines qu'on nous fait miroiter contre Sao, puis à un moment donné, on te dit c'est fait, c'est pas fait, ça discute, on sait pas. À un moment donné, ben écoute, tu veux pas venir, ben ne viens pas, prends-toi une année sabbatique. Et si De Zerbi, là, on l'appelle aujourd'hui, de suite, il dit oui, ben viens avec plaisir, parce que dans la situation où on est, c'est inespéré d'accueillir un coach qui te développe un jeu comme ça, en plus en Coupe d'Europe. Bon, moi, j'avais plus peur de me prendre du jeu Antonetti ou je sais pas quoi.
Non, pas
avec Longoria non plus.
Non, Longoria, non, c'est sa grande qualité, Longoria.
Et Benatia, t'aurais pu prendre du Galtier.
Longoria, si
oui, c'est s'il vous plaît, tout sauf Galtier, je préfère encore.
Mais t'aurais pu prendre du Galtier.
Non, pas du Galtier, s'il vous plaît.
Non, mais t'inquiète pas, ce sera pas lui. Tranquille, Hakim. Sois rassuré.
Bon, si c'est pas De Zerbi, c'est Galtier.
Non, voilà, c'est vrai ça. Après, non, plus sérieusement, là, je pense que c'est vraiment le bon moment, entre guillemets, de prendre le risque de prendre ce genre d'entraîneur. Que là, au moins, tu n'as pas de Coupe d'Europe, tu sais qu'il va pouvoir construire. Mais surtout, quand bien même ça marche. Qui partent pas l'année prochaine, parce que s'il fait une bonne saison mais pour partir l'année prochaine, faudrait qu'on se sorte aussi de cette spirale infernale.
T'as raison, faudrait pas qu'un City, comme disait Sven tout à l'heure, qu'un Guardiola quitte City et que City veuille De Zerbi, tu vois, par exemple.
Responsabilité de Longoria sur ça.
Johan est toujours avec nous. Johan, toi qui connais un peu Roberto De Zerbi, s'il vient à Marseille, il signe 3 ans, c'est pour honorer, on va dire, au minima 2 saisons, si ça se passe plutôt bien pour lui. Ou c'est le genre de mec à partir au bout d'un an parce que ambition, il aura 46 ans, il veut gagner la Ligue des Champions.
Non mais alors déjà c'est jamais c'est pas un entraîneur qui a construit sa carrière en cherchant le blason à tout prix, le blason du club, l'emblème du club très réputé qui veut gagner la Ligue des Champions tout de suite. Ça se voit dans son parcours. Il réfléchit pas comme beaucoup d'autres entraîneurs. Lui, ce qui est le plus important pour lui, c'est d'avoir la certitude qu'il pourra travailler librement, comme il l'entend, avec sa méthodologie, avec les joueurs qu'il veut. Et donc, il faut lui donner quand même pas mal de garanties. Par contre, le jour où il n'y a plus ces garanties-là, c'est très difficile de retenir Roberto De Zerbi, et c'est ce qui s'est passé notamment à Brighton. Quand tu le prends, que tu lui donnes des garanties et que derrière, tu ne veux plus les honorer, entre guillemets, je ne sais pas trop comment l'évoquer, derrière, il y a quelque chose qui se casse. C'est comme tout coach très émotionnel,
qui est beaucoup dans
l'affect,
dans la charge affective, dans l'affect, ça peut changer assez rapidement. Mais il faut savoir quand même que De Zerbi a joué à Naples, a joué à Foggia, a entraîné Foggia, et pour lui, Marseille, ça va lui rappeler ces ambiances-là. Quand il est venu avec Brighton, ce que vous aviez dit sur Gasperini, il l'a aussi ressenti. C'est quelque chose qui l'aime beaucoup, je vais pas dire impressionne, mais qui l'aime beaucoup, ce type d'ambiance-là, et qui lui rappelle Foggia, où il a laissé un excellent souvenir et où il avait réussi à construire quelque chose dans un environnement très bouillonnant, avec des jeunes joueurs et pas que des phénomènes. Et donc ça fait aussi partie des critères qui l'ont sans doute poussé, et je dis sans doute parce que j'en ai pas la certitude, à accepter ce poste-là, ce que représente l'OM, ce que représente le Vélodrome, et quelqu'un aussi qui a toujours suivi de près ou de loin le football français.
Merci mon cher Johan d'être venu nous avoir éclairé. Johan il est penché que du côté de Nice saison dernière parce que Fayoul était là. Maintenant il va regarder un peu plus Marseille peut-être. On est d'accord Johan, hein, ça va être ça.
C'est bien possible.
Peut-être qu'il sent bien les coachs aussi.
Ouais, Fayoul nous a un peu fait à l'envers comme Johan. On en reparlera. Sur Francesco Fayoli.
Pas du mieux. Il n'y a pas de souci. Tous les avis sont bons.
Top 5 avec Nice et Ajax. Franchement ils sont.
Oui mais on espère autre chose que des résultats aussi.
Je l'ai dit tout à l'heure, la notion d'adaptation par rapport aux transitions en Ligue 1, je crois on le sous. Même.
Merci Hakim d'être venu. Hein. Tu reviens quand tu veux, tu nous appelles hein, dès que c'est officiel.
Merci beaucoup, pour avec un grand plaisir. J'espère en tout cas que ça va vite s'officialiser, parce que pour l'instant, il n'y a quand même rien d'officiel.
Exactement. Exactement. Il manque plus que l'accord avec Brighton.
Non, il manque surtout l'arrivée à Marignane pour moi. C'est le point le plus important.
T'as raison.
L'arrivée à Marignane.
Merci Hakim, tu reviens quand tu veux sur RMC. Encore merci Johan, très bonne soirée à toi. Dans un instant, on parle de Thierry Henry à vie de Sofiane, qui estime que Thierry Henry perd du temps actuellement dans la construction de sa carrière d'entraîneur. Reste avec nous, Génération After sur RMC, 20h46. À tout de suite.
RMC jusqu'à 22h. Génération After.
Nicolas Jamin.
Avec Kevin Diaz, Elton Mokolo et Sofiane Zouaoui. On est ensemble jusqu'à 22h. Vous le savez, on parle de l'équipe de France à 21h des nouvelles avec nos envoyés spéciaux qui sont à Paderborn, qui ont vu les Bleus s'entraîner. Nouvelle concernant Kylian Mbappé, hein, qui n'a pas participé à l'entraînement collectif. Mais d'abord, la vie de Sofiane. Sofiane Zouaoui, Thierry Henry, perd son temps dans sa carrière d'entraîneur. Jingle, Sofiane.
Je vais peut-être vous faire sauter sur le plafond.
Elle est pas mal. Elle est pas méchante.
Elle est taf de montage. Hein. Ouais, franchement, réactif. Réactivité, vous me dégoûtez.
Montage, mais pas trucage, hein, je le précise, pour ceux qui nous ont rejoints. Alors, pourquoi il perd du temps, tiens?
Ouais, je pense qu'il perd son temps dans sa carrière d'entraîneur parce que, moi, ça fait un an, là, c'était en août 2023 qu'il a été nommé sélectionneur des 23. J'étais assez excité par l'arrivée de Thierry Henry. C'est une figure nationale dans une sélection qui est plutôt mésestimée. Donc, je me suis dit, tiens, pour le storytelling, c'est vraiment cool. Je me disais aussi, à la proximité des JO, Mbappé pouvait à ce moment éventuellement y aller. Donc, Mbappé, Henry aux JO, je me disais, tiens, c'est cool. Ça peut me plaire. Mais là, plus les mois passent, plus, comme dans toute relation, tu vois un peu plus les défauts d'une situation. Et on a peut-être oublié l'un des sujets importants aussi dans ce débat, c'est qu'au-delà des joueurs, des JO, etc., c'est qu'est-ce qu'on fait de la carrière de Thierry Henry coach ? Parce qu'on rappelle quand même que c'est un coach qui... On espérait pas mal de choses de par sa carrière de joueur, même si évidemment, quand t'es bon joueur, t'es pas forcément bon entraîneur, mais on avait quelques espoirs. Début compliqué, très compliqué à Monaco, les 11 défaites en 20 matchs, la gestion du groupe, etc. Après, on l'a un petit peu perdu, il part à Montréal, mais bon, on n'a pas de retour forcément direct. Il y a sa carrière en sélection en Belgique, où c'est plutôt invisible, même si on a des bons retours, mais bref, ça le fait pas progresser dans sa carrière d'entraîneur, en tout cas à nos yeux. Et je me demandais, est-ce que cette expérience-là actuelle, de Jeux Olympiques, ça va lui servir. Je vais essayer de découper. Sur l'aspect tactique, déjà dans un premier temps, je pense on sait très bien, il y a une différence folle entre club et sélection. Je pense pas que sur le taf de sélection, t'es une progression tactique aussi folle qu'en club. Bien sûr, t'as des adaptations en fonction des matchs, mais bref, c'est pas fou. Tu gagnes pas un tournoi sur ton aspect que tactique. Je pense que c'est plus sur la gestion de groupe. Et puis, je pense pas qu'on attendait beaucoup Thierry Henry tactiquement parce qu'on sait que c'est un mec qui comprend la tactique. Le plus dur, c'était de la faire appliquer. sur la gestion de groupe, justement. On pouvait se dire, tiens, il peut progresser parce qu'une sélection, faut choisir des joueurs, faut construire un groupe, c'est, voilà, c'est toute une mécanique. Mais là, c'est tellement biaisé par ce qui se passe au JO et notamment par les clubs qui t'empêchent de prendre des joueurs que pour moi, il fait même pas un travail de gestion de groupe. Il subit vraiment les choses. Et comment tu le juges aussi, puisque là, il sélectionnait des joueurs type Zaïre Emery ou Yoro, tout en sachant qu'il ne les aurait jamais. Donc, il fait un peu un taf de politique pour dire aux clubs, vous voyez, c'est les clubs qui nous bloquent. Donc, vraiment, il fait pas un boulot d'entraîneur pour moi. Comment t'expliques aussi à Matsima, Diouf et Cherki qui ont été sélectionnés hier, qu'en fait, ils sont passés derrière des gars dont ils savaient qu'ils n'allaient pas être sélectionnés parce que les clubs refuseraient. On va me dire, tiens, ouais, mais s'il gagne les JO, c'est cool. Ouais, pour la France, c'est sympa. Pour lui, c'est sympa aussi. Mais est-ce qu'un club pourra se baser sur son travail, tout en sachant que les conditions là de travail, tu les retrouveras jamais dans un club. Déjà dans une sélection normale, c'est compliqué de retrouver les mêmes conditions. Alors dans une sélection U23 pour les JO, ça me paraît très compliqué. Donc voilà, c'est peut-être pas le débat d'actualité là sur les JO parce qu'on pense plus construction groupe, mais je me disais, pour moi, il progresse pas. Pour moi, il perd du temps dans sa construction de coach. Et même s'il a le label France, je pense que son expérience, elle ne va pas lui apprendre grand chose. Voilà. Et c'est mon avis.
Voilà. L'avis de Sofiane, vous pouvez réagir également. Kevin, vas-y.
Mais là, Thierry Henry, sélectionneur de l'équipe de France, je pense que tu te trompes d'objectif. Il est pas là pour apprendre des choses. Il est là, en fait, c'est un one shot. C'est comme quand un entraîneur de NBA est adjoint du sélectionneur de la Dream Team pour vivre une expérience, pour vivre des JO. Aujourd'hui, Steve Kerr, il va pas apprendre grand-chose en étant sélectionneur de la Dream Team, puisqu'il a les meilleurs joueurs de toute façon. Donc Didier Deschamps, lui,
Steve Kerr, c'est déjà quelqu'un.
Mais il y a des gens qui critiquent son coaching.
Oui, t'as bien compris.
Donc en fait, Thierry Henry aujourd'hui, je pense qu'il a accepté, peut-être. En tout cas, je pense, c'est mon avis.
Il a
accepté que peut-être la carrière d'entraîneur au quotidien, au très haut niveau, avec sa personnalité, avec son emploi du temps, avec ses autres activités, peut-être avec sa famille, c'est pas forcément son objectif prioritaire, mais que par contre, relever le défi d'emmener une équipe de France aux Jeux Olympiques à Paris, ça peut lui permettre de parfaire un petit peu son aventure d'entraîneur.
Dis-moi, toi qui connais, en quoi tu progresses?
Tu progresses, mais en quoi ça peut t'aider. J'ai dit parfaire. C'est-à-dire que c'est une expérience en plus.
Et qu'est-ce que ça t'aide par rapport à la suite de ta carrière?
C'est des gens qui, on pourra jamais se comparer à eux, puisque c'est des gens qui ont vécu des choses tellement incroyables dans leur vie. Donc en fait, ils sont aussi à la recherche de cette petite adrénaline, tu vois.
Parce que là,
il se met en danger.
De recherche d'émotion, peut-être.
Il se met en danger. En fait,
c'est un truc Erasmus.
Mais sur le quotidien, il progresse pas.
Si c'est un truc Erasmus, je suis d'accord avec toi, c'est super cool comme expérience. Mais est-ce que ça fait progresser?
Je pense que moi j'ai jamais fait ce que j'ai fait en Erasmus, je l'ai pas refait après. Toutes les expériences te font progresser. De toute façon, ça va le faire progresser dans son métier de consultant, ça va le faire progresser dans son métier ou pas d'entraîneur, dans son expérience de vie, dans ce métier qui est tellement particulier, avec quand même un beau réservoir français, même si je pense qu'il espérait avoir plus de joueurs
Je pose une question aussi, vas-y Elton.
Parce qu'en fait, on oublie quelque chose qui est très important et qui pour moi définit tout, c'est la temporalité. Je pense que Thierry Henry, il avait d'autres ambitions par rapport aux Jeux Olympiques, et le fait est que le Thierry Henry sélectionneur est victime du football français.
Excusez-moi, il n'est pas naïf. Il savait qu'il n'aurait pas la main. Il savait que c'était pas dans un calendrier FIFA.
Je pense qu'il
a aimé sur le papier équipe de France, Jeux Olympiques, Paris, les jeunes. J'aime bien les jeunes.
Mais
voilà.
C'était
parce qu'il n'y avait pas d'offre aussi.
C'était une carte publicitaire qui était sur le papier.
Oui, c'est ça. Moi, je vais te dire.
Le problème, c'est qu'il s'est converti en panneau publicitaire. Et moi, je vous rappelle, on en a déjà parlé la dernière fois. J'ai vu un Thierry Henry impuissant. Tout simplement parce qu'il a été victime du manque de planification du football français. Donc aujourd'hui, c'est un entraîneur qui, par la force des choses, subit les événements et qui n'a pas toute l'attitude pour se parfaire en tant qu'entraîneur, pour influer sur la liste de la meilleure des manières. Et ça, c'est pas ce qu'il aurait souhaité. Ne pense pas que Thierry Henry, il arrive et il se dit qu'en fait, il va faire, entre guillemets, il va expédier les affaires courantes, parce que factuellement, c'est ce qu'il faut aujourd'hui.
Parce que là, dans le chat, on dit à lui de bien faire les choix, mais il fait pas de choix. C'est ça le truc. La grande majorité des choix,
il impose ses choix.
Et donc, je vous pose une question pour conclure. Est-ce que tu penses que tu progresses, que tu gagnes de l'expérience, des capacités dans ton management et dans ta tactique quand t'es coach, par exemple, tu fais une saison au Red Star ou à Martigues, je dis deux clubs au hasard, ou quand t'es sélectionneur d'équipe de France pour les JO?
Évidemment.
Je pense que je préfère la première solution.
Mais Thierry Henry n'ira jamais au Red Star ou à
Martigues. Bien, on verra sa suite de carrière.
Après, attention, Sofiane est aussi engagé pour les qualifications pour l'Euro Espoir 2025. Ça s'arrête pas aux Jeux Olympiques.
Voilà pour Thierry Henry. Tu vois un avis, Sofiane, qui fait réagir quand même malgré tout, y compris sur le chat de la chaîne YouTube de l'After. Dans un instant, nous parlons de l'équipe de France et on va en Allemagne. Demain soir, le coup d'envoi de l'Euro. Paulo Breitner sera également avec nous pour parler de la National Mannschaft. Vous écoutez RMC. Vous écoutez Génération After. À tout de suite.